dans ta tête, tu me vois, je suis en bonne santé, je faisais du sport et tout, donc. Enfin, non, mais. Il n'y a aucun moment. Tu te dis qu'il va m'arriver tout ça, quoi. Je sais pas.
Allô?
Allô, je suis en bas, Yann.
Ok.
Le cœur de Yann, un podcast de Kim Du.
Hello, ça va? Ça va? Ça va, t'as pas marre?
Oui.
T'habites où?
Troisième étage.
Je m'appelle Yann, j'ai 20 ans. J'ai été greffé en décembre 2022 suite à une cardiomyopathie dilatée sévère découverte en avril 2022. Donc j'étais très essoufflé, mais rien que quand je courais genre un petit peu ou juste quand je trottinais genre. Et on a découvert chez mon médecin traitant que j'avais un battement de cœur très rapide. Donc j'avais environ 130 battements par minute au repos, donc le double par rapport à la norme à mon âge qui est de 60 battements par minute. Suite à ça, le médecin traitant décide de m'envoyer à l'hôpital pour faire un check-up. Donc j'arrive à l'hôpital le jour même et on fait d'abord des tests Covid. Les résultats sont positifs, donc on pense simplement que j'ai le Covid et que mes essoufflements du coup sont liés à ce virus. Mais à l'hôpital, on décide quand même de faire des tests plus poussés, juste pour s'assurer qu'il n'y a rien de plus. Donc on me fait passer une échographie, et c'est là qu'on découvre que je crois que mon cœur il fonctionnait à 30%. On n'avait pas découvert ça parce que mon cœur il est compensé et c'est pour ça qu'il a gonflé. Et c'est très possiblement, même c'est sûr que j'avais ce problème depuis un très long moment. Parce qu'il avait tellement gonflé que c'était pas en un an qu'il allait être aussi gros quoi. On pense que c'est grâce au Covid-19 que. Enfin, le Covid-19 il m'a permis de. Qu'on découvre ce problème parce que peut-être que j'aurais pas eu le battement de cœur aussi rapide sans le Covid quoi.
On nous a annoncé début avril que ton cœur est malade. Nous savons que c'est grave, mais les médecins sont rassurants. Les choses s'accélèrent mi-novembre. Le cardiologue qui te suit a proposé de réparer la fuite interne de ton cœur. L'opération est programmée du 11 au 15 décembre au CHU de Nantes. Nous avons l'espoir de ne jamais recourir à une greffe.
Je pense à partir de la rentrée, j'étais très fatigué, j'allais pas souvent en cours, je faisais aussi pas mal de rétention d'eau, donc j'avais des jambes très gonflées. Dès fin novembre, je me sentais vraiment vraiment très mal, j'étais extrêmement essoufflé, je pouvais même plus prendre de douche. À un moment, genre, sous la douche, j'arrivais même plus à rester debout, quoi. Je pense que c'est à ce moment-là que j'ai découvert que j'ai pris conscience du problème. Jusque-là, même en étant essoufflé, je me rendais pas vraiment compte de la gravité de ma maladie. Un soir, Un soir, je me sentais tellement mal que j'ai décidé d'écrire une lettre d'adieu à toute la famille au cas où il m'arrivait quelque chose. J'avais un rendez-vous le 2 décembre, un check-up sur Brest pour évaluer ma situation. Donc juste avant, j'avais pas voulu parler de ce que je ressentais à ma famille parce que je savais que j'avais un rendez-vous dans pas longtemps. Donc le 2 décembre pendant le rendez-vous on a découvert que mon cœur ne marchait presque plus Et donc c'est là qu'on a décidé de m'hospitaliser sur Brest pendant 3 jours.
2 décembre, journée d'examen au CHU de Brest. Nous avons rendez-vous à 9h. Tu es parti pour une échographie. Première mauvaise nouvelle, la fuite est plus importante. Il te faut un traitement complémentaire pendant 1 semaine. Ils décident de te garder dans le service de soins intensifs cardiologie. Ils te préparent en condition pour l'opération à Nantes dans 1 semaine. C'est une hospitalisation inattendue. Ta mère a préparé ta valise et je suis revenue à Brest pour t'apporter tes affaires.
Au départ, on n'avait pas pensé à la Grèce du tout. Mais comme mon état, il dégringolait tellement rapidement que la greffe était la seule solution envisageable. Je crois que j'étais soulagé. Après qu'on m'ait dit qu'il fallait me greffer, parce que je me sentais tellement mal à ce moment-là, j'étais tellement essoufflé que je me suis dit que la greffe, c'était la seule solution pour me permettre d'aller mieux.
4 décembre. Tu seras transféré à Nantes dès demain. Ton état a été jugé plus stable. S'il se dégrade, le transfert pourrait se faire avant. Ta mère a demandé si elle pourra monter dans l'ambulance pour t'accompagner. On lui a répondu qu'ils ne savent pas encore quel est le modèle du véhicule. Le transfert pourrait se faire en hélicoptère.
Le 5 décembre, on m'envoie sur Nantes, en hélicoptère. J'attends 2 jours dans mon lit. J'étais très essoufflé. Je priais pour avoir la chance d'avoir une greffe. Les médecins ont décidé de me poser une ECMO. En gros, c'est des tuyaux qui passent là, au pli de l'aine. Mais en gros, ça permet juste d'assister le cœur. Et à partir du moment où on pose une ECMO, je crois que j'ai 14 jours pour trouver une greffe. Sinon, bah, c'est capoute. Parce que j'ai moins de chances de supporter la greffe. Donc je redescends sur la liste des patients qui attendent cette greffe du cœur. Et par chance, le lendemain, vers 2h du matin, on me dit qu'on a trouvé un greffon pour moi.
8 décembre, il y a un greffon compatible. L'opération est prévue à 14h. Tu es parti au bloc opératoire, ta maman t'a accompagné en tenant ta main. Elle t'a beaucoup encouragé. L'opération doit durer 8 heures. Tu es remonté du bloc vers 00h45 avec l'ECMO, l'assistance cardiaque, et tubé, car ton poumon a besoin d'être alimenté. On a juste dit à ta maman qu'il y a eu pas mal de complications. À 2h10, le chirurgien nous a donné quelques informations. Le greffon est bon, un peu faiblard. On doit lui laisser du temps.
J'ai pas vraiment de souvenirs juste après la greffe. Je me rappelle du jour de Noël, le 24 décembre. En fait, je me réveillais petit à petit, quoi. Du coup, c'est à ce moment-là que j'étais assez conscient. Parce que j'avais une dose de médicaments, quoi. Je crois que je me rappelle que j'avais un tuyau dans la bouche et je voulais absolument l'enlever. Il m'énervait. Parce que je pouvais même pas parler. J'étais tellement impatient que j'avais essayé de l'enlever de moi-même, carrément. Mais on me l'a enlevé et il y avait ma famille autour de moi. Je pense pour moi la période après l'opération, donc en réanimation, c'était la période la plus dure à supporter pour moi. Parce que j'avais énormément de câbles autour de moi, j'étais surveillé constamment. Je pouvais même pas bouger les jambes parce que j'avais des tuyaux dans les jambes pour assister mon nouveau cœur. J'arrivais même pas à dormir, tellement la position était inconfortable.
T'as pris quoi ? C'est piment. Oui, je l'ai pris. Un curry rouge, s'il vous plaît.
C'est un petit peu pimenté.
Oui, oui. C'est vrai.
J'avais presque pas le droit de manger. J'avais un souci au niveau de l'estomac. Je vomissais à chaque fois que je mangeais quelque chose. Du coup, j'étais nourri par perfusion. Donc ouais, cette période c'était la plus dure, voilà. Mais ma famille était présente tous les jours pendant 2 heures l'après-midi, donc ça m'a permis quand même de garder la tête haute et de réussir à passer le cap, quoi.
25 décembre, tu n'as pas dormi de la nuit. Tes amis te manquent, surtout ta copine Marina, et tu te sens seule. Tu as demandé à ce qu'on t'apporte ton smartphone pour voir les photos, pour pouvoir échanger avec tes amis. Tu as demandé à ta maman des nouvelles de tes sœurs, tu lui as dit que tu les aimes et que tu ne leur as pas souvent dit. Ta mère t'a répondu qu'elle t'aime aussi et que tu pourras leur dire plus souvent. 27 décembre, tu as demandé qu'on t'approche les photos pour mieux voir, et tu as pleuré. Tout le monde te manque, surtout Marina. Tu as touché son visage sur la photo et tu as pleuré. Ta mère et moi t'avons massé. Tu as beaucoup bougé, comme si tu faisais de la gym, des exercices physiques. Juste après, tu as vomi. Ce qu'il te faut pour l'instant, c'est du repos.
C'est vrai qu'avant, j'aimais bien tous les sports de combat, la musculation. Et maintenant, bah, j'ai plus le droit. Après la greffe, normalement, tu peux reprendre tous les sports. Mais suite à l'opération, j'ai mon aorte qui a été fissuré. Probablement j'avais un tuyau dans l'aorte et quand ils l'ont retiré, ça l'a fissuré. À cause de ça, je peux pas porter de charges lourdes, donc la musculation c'est fini. Bien sûr qu'au début, quand on m'a dit que j'aurais plus le droit de faire des exercices physiques, j'en voulais à mon corps. Parce que j'aurais voulu être comme les autres, profiter à fond de la vie. Ouais, j'aurais bien aimé reprendre certaines activités, comme la boxe, le foot, en club. Parce que c'était des activités en groupe, c'était amusant. Alors qu'aujourd'hui, à part le vélo, bah, j'ai plus le droit de faire des activités comme avant. J'ai trouvé une passion, donc le jeu vidéo. Donc ça me permet aussi de m'évader quand par exemple je me sens seul, ou ça me permet de rester en contact avec mes amis, de m'amuser avec eux. Je suis fatigué par moments, ouais, j'ai besoin de dormir plus qu'avant. J'ai bien sûr des médicaments à prendre matin et soir. Attends, j'en ai combien ? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc le matin, j'ai 6 médicaments à prendre. On a le Prographe et le Mifortic qui sont des immunosuppresseurs qui permettent à réduire mon immunité, donc à empêcher mon greffon d'être attaqué par mes bactéries. Donc c'est à prendre la vie parce que voilà, bref. Et là j'ai 3 tubes de médoc le soir. Donc ça fait 9. On est censé descendre les doses et aussi les types de médicaments. Là ça fait 3 ans. Ça fait 3 ans que je suis greffé et on est toujours en train d'équilibrer un peu tous les médicaments pour les ajuster à mon corps.
26 décembre, Tu as de nouveaux médicaments pour traiter ton hypertension artérielle pulmonaire. Depuis aujourd'hui, tu respires un mélange de gaz à base d'azote. Le but est de dilater les vaisseaux et de faciliter le flux sanguin. 30 décembre, le niveau des médicaments a bien baissé. Ton cathéter a été changé. Un 7 voies contre un 4 voies. 6 janvier, biopsie du cœur pour vérifier le traitement d'anti-rejet. Tu as un nouveau traitement pour tes reins. 7 janvier, tu as des douleurs au ventre. L'infirmière dit qu'ils sont en train de stabiliser ton traitement anti-rejet. 12 janvier. Tu as vomi une fois ce matin et un peu ce soir. Une fibroscopie est prévue demain, sous anesthésie générale, pour vérifier ton estomac. Il y a aussi un doute sur les médicaments. Ils vont les enlever un par un pour trouver celui qui te pose problème.
Tous les mois, j'ai une prise de sang à faire pour justement régulariser tout ça. Bah, il regarde si j'ai des problème au niveau des reins, du foie, parce que les médicaments ils attaquent les organes comme le foie, mais pour le moment on me conseille juste de boire beaucoup d'eau pour éliminer tout ce qui est nocif dans les médicaments pour les organes. Donc pour le moment, tout est stable et ça me permet de vivre sans souci. C'est ça ou la mort, de toute façon.
30 décembre. Tu es resté assis pendant 1h30 et tu as rejoint ton lit tout seul sur tes deux jambes. Tu te souviens seulement du rendez-vous du 2 décembre à Brest, mais pas du tout de ton hospitalisation. Tu souhaites remercier la famille de la personne qui t'a fait don de son cœur.
Peut-être que maintenant, je compatis aussi plus qu'avant, quand je vois des gens malades, je me rends plus compte de la gravité des choses. Parce que quand on le vit pas, on peut pas savoir à quel point c'est difficile de vivre ce genre de choses. Quand je vois par exemple des gens qui fument, je me dis que c'est dommage qu'ils détruisent leur santé. Juste alors qu'il y a des gens, ils sont en attente de grève de poumons par exemple. Et qu'ils ont rien demandé en fait. Qu'ils ont jamais fumé, mais qui ont des problèmes de santé très graves. Je sais pas si tu vois un peu ce que je veux dire. Ouais, je trouve ça injuste qu'il y ait des gens qui tombent gravement malades alors qu'ils ont toujours essayé de rester en bonne santé. Au départ, il me semble que j'étais assez envieux par rapport aux autres ados, en sachant que j'ai jamais bu d'alcool, j'ai jamais fumé, et pourtant c'est moi qui tombe malade.
17 janvier. Ta maman a voulu fêter ton anniversaire avec toi. Elle t'a pris un gâteau marbré et une boîte de sardines. 21 janvier. Tu marches normalement, en poussant ton fauteuil. Tu as encore la barre de perfusion. Ta première bouffée d'air frais depuis le 5 décembre. Plus d'un mois. Tu vas changer de service lundi prochain.
Ça peut durer 30 ans. En salle d'attente, quand j'ai des rendez-vous, je discute avec d'autres patients. Il y en a certains qui ont un greffon qui est là depuis 20-30 ans. Donc, sur ce côté-là, je ne m'inquiète pas trop. Puis, de toute façon, j'ai le droit aussi à une deuxième greffe. Donc, possiblement, si tout se passe bien quand j'aurai peut-être 50 ans, et puis on verra bien. Et aussi avec la toxicité des médicaments, peut-être que j'aurai un souci avec un autre organe, mais le foie, le rein, ça se remplace aussi. Voilà. Je suis pas du genre à me projeter, en vrai. Donc pour le moment, je suis à l'université, puis on verra bien ce qui se passe. mais dans 10 ans, si possible, avoir une femme. Peut-être des enfants, je sais pas. J'aurai 30 ans, ouais. Je sais pas. On verra bien.
C'était Le cœur de Yann, avec Yann Du et des extraits du journal de Ki Duong Du, un podcast de Kim Du, mixage Jean-Christophe Galen, Centre universitaire d'enseignement du journalisme.